Paul, en est-il venu à croire à un péché originel ? Malgré le récit de la chute de nos premiers parents au début de la Genèse, les Juifs n'ont pas toujours cru à l'existence d'un péché originel. Paul n'y croyait pas non plus avant sa conversion. Pourquoi donc en parle-t-il dans sa lettre aux Romains ? Effectivement, lorsque, sous le règne de Josias au 7e siècle avant Jésus-Christ, les Juifs ont rassemblé en un seul rouleau les traditions religieuses de leur peuple, notre premier chapitre de la Genèse n'existait pas. La Genèse commençait directement par nos chapitres 2 et 3, et on les lisait non pas comme un récit de création, mais comme un raccourci de l'histoire d'Israël. C'était une espèce de préface de la Torah. Adam, c'était Israël que Dieu était allé chercher dans le désert d'Égypte pour le transplanter en Canaan dans un jardin magnifique arrosé par quatre fleuves et rempli d'arbres séduisants à voir et bons à manger. L'arbre de vie, c'était l'arbre sous lequel les peuples canadiens célébraient leur culte de fécondité avec des sacrifices d'enfants nouveau-nés qu'on immolait aux dieux canadiens. L'interdiction d'y toucher rappelait l'interdit formel que Dieu avait donné à Israël d'y participer. Le sommeil magique dans lequel Adam est plongé et au cours duquel il reçoit la femme qui va lui donner une descendance rappelle le sommeil au cours duquel Abraham reçoit de Dieu la promesse d'avoir une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. L'homme doit quitter son père et sa mère, c'est-à-dire quitter les idoles de la religion de ses pères pour s'attacher à la loi de Dieu. Le péché de désobéissance d'Adam et Ève, ce sont toutes les infidélités du peuple à l'égard de son Dieu. Mais dans sa miséricorde, Dieu revêt Adam de tunique de peau, c'est le signe de l'alliance qu'il renouvelle sans cesse avec son peuple. Ce texte de fondation était en quelque sorte le credo du peuple juif. C'était la façon dont Israël se représentait l'amour de Dieu pour lui. Il nous a tirés de rien, il nous a transportés dans une terre où coule le lait et le miel, et nous pouvons y célébrer son culte. En revanche, au VIe siècle, à l'époque où ils sont déportés à Babylone, les Juifs ont de plus en plus conscience que l'homme est vraiment pécheur, qu'il a une fâcheuse tendance à se détourner de Dieu, la source d'eau vive, pour se tourner vers des idoles, des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. « Le cœur de l'homme est compliqué et malade, crie Jérémie, et cela dès la naissance. Moi, je suis né dans la faute, j'ai été pécheur dès le sein de ma mère, chante le psaume 51. » Aussi ne faut-il pas s'étonner que tout un courant du peuple juif soit de plus en plus sensible à ce qu'annoncent les prophètes, à savoir que doit venir un Mashiach, un homme qui sera tellement loin de l'Esprit de Dieu, c'est la signification du mot Mashiach, participatif du verbe oindre en hébreu, il sera tellement pénétré de l'Esprit de Dieu qu'il pourra le répandre sur tous les membres du peuple. Et que cet esprit leur donnera un cœur nouveau, capable d'aimer pour de bon. Sa loi, Dieu l'inscrira directement, non sur des tables de pierre, mais dans le cœur des hommes. D'autre part, les Juifs sont revenus de Perse avec la conviction bien assurée que leur Dieu, Yahvé, est vraiment le seul Dieu. Ils ne sont plus tentés d'honorer les divinités cananéennes, et le récit de la chute n'a plus sa raison d'être. Il compose donc pour la Torah une nouvelle préface, notre premier chapitre de la Genèse, qui est une profession de foi monothéiste. Dieu, dit le texte, crée la lumière et les ténèbres. C'est une façon de proclamer d'emblée que le Seigneur de la lumière et de la sagesse, dont les exilés ont découvert le culte dans le royaume de Cyrus, n'est qu'une idole. C'est Dieu qui crée tout ce qui se trouve dans les cieux, ce qui se trouve sur terre et jusqu'au fond des océans. Désormais, le credo du peuple d'Israël, qu'on place en préface des livres saints, comme profession de foi monothéiste, est un récit de création. Mais par le fait même, le récit de la Genèse de 3 va devenir non plus un résumé de l'histoire d'Israël, mais le prolongement de l'histoire de la création qui vient d'être écrite, un autre récit de création et le récit d'une chute originelle. Se développe en effet chez les Juifs l'idée qu'il pourrait y avoir un péché originel au tout début de l'histoire humaine. Au IIe siècle, avant Jésus-Christ, le livre de la Sagesse affirme que la mort est entrée dans le monde par la jalousie du diable. Mais ce courant est loin de faire l'unanimité. Tout en étant bien conscient que le juste pêche 7 fois par jour, Proverbe chapitre 24, le judaïsme officiel continue à croire qu'il suffit d'offrir régulièrement des sacrifices pour réparer tous ses manquements et rétablir chaque jour l'alliance avec Yahvé. Après la disparition du temple, les sacrifices seront remplacés par les dûts assidus de la Torah. Lorsque Jean-Baptiste proclame la venue imminente du Messie, il insiste au contraire sur la nécessité d'un baptême radicalement nouveau pour que, plongés dans l'esprit, les hommes soient enfin capables de vivre la loi, toute la loi d'amour. Même langage chez Jésus. Le cœur de l'homme, dit-il, est loin d'être vierge. En lui fourmillent toutes sortes de pensées mauvaises. Ce qui souille l'homme, dit Jésus, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche, mais ce qui en sort et procède de son cœur. De son cœur, en effet, procèdent mauvais desseins, meurtre, adultère, débauche, vol, faux témoignage, diffamation. Et lorsque ses disciples lui demandent la raison pour laquelle Moïse a autorisé les hommes à divorcer, à renvoyer leurs femmes, Jésus leur répond : c'est à cause de la dureté de leur cœur. Mais, ajoute-t-il, à l'origine, il n'en fut pas ainsi. Ce qui implique que pour Jésus, cette dureté du cœur n'existait pas au tout début de l'humanité. L'homme a donc besoin d'être complètement renouvelé, d'entrer dans le royaume avec un cœur d'enfant, afin de pouvoir en vivre les exigences toutes nouvelles, car Jésus n'est pas venu abolir la loi, mais l'amener à sa perfection. Il y faut une nouvelle naissance, celle que le Baptiste a annoncée et que Jésus fait entrevoir à Nicodème. Jésus sait aussi que les sacrifices qu'on offre depuis des siècles dans le temple de Jérusalem ne suffisent pas à réconcilier pleinement les hommes avec son Père. C'est pourquoi il a bousculé les tables des changeurs dès le début de son ministère. Le véritable temple, c'est lui. Et le sang qui doit sceller à jamais l'alliance éternelle avec le Père, c'est le sien. Le sang de la nouvelle alliance, dit-il à ses disciples au soir de sa vie, en l'offrant à son Père, avant de le verser le lendemain aux portes de la ville. Quant à Paul, c'est seulement après sa conversion qu'il a compris à quelle profondeur le cœur humain avait été blessé. En bon juif qu'il était, il avait déjà repéré l'incapacité dans laquelle se trouve l'homme d'accomplir parfaitement ce que sa conscience lui dicte. « Je ne fais pas le bien que je voudrais faire, écrit Paul, et je fais le mal que je ne voudrais pas faire. » Mais avant sa conversion, Paul n'avait pas encore pris conscience de toute la gravité des péchés commis par les hommes. À partir du moment où il croit qu'il a fallu, pour nous réconcilier avec Dieu, le sacrifice du Fils bien-aimé, le péché lui apparaît tout à coup comme une chose horrible. Que s'est-il passé au début de leur histoire pour que les hommes commettent des actes qui exigent une telle réparation? Faut-il que les hommes aient été abîmés par le péché d'Adam? D'autre part, Paul fait l'expérience depuis sa conversion de la vie toute nouvelle que l'Esprit Saint lui fait vivre. Ces fruits de l'Esprit dont il parle dans le chapitre 5 de l'Épître aux Galates, ces fruits de l'Esprit lui donnent de vivre une charité, une joie, une douceur, une maîtrise de lui-même qu'il ignorait auparavant. Il prend donc une conscience très vive du désordre dans lequel vivaient les hommes depuis toujours. On ne se rend compte qu'après en avoir été libéré par le Christ, Il y a dans le vieil homme une convoitise qui n'est pas la simple séquelle de nos fautes passées. Et Paul lit désormais Genèse 3 comme le récit de la chute originelle, responsable de cette terrible propension à pécher que tous les hommes découvrent en eux. C'est par la désobéissance du premier Adam qu'ils sont tombés dans l'esclavage du péché. C'est l'obéissance du Christ nouvel Adam qui leur obtient la grâce d'en sortir. Comme en effet, par la désobéissance d'un seul homme, la multitude a été constituée pécheresse, ainsi, par l'obéissance d'un seul, la multitude sera-t-elle constituée juste. Et la bonne nouvelle du don que Dieu nous fait dans le nouvel Adam nous fait accepter la mauvaise nouvelle de ce péché originel commis par le premier Adam. Il n'en va pas du don comme de la faute, écrit-il, si par la faute d'un seul la multitude est morte, combien plus la grâce de Dieu et le don conféré par la grâce d'un seul homme, Jésus-Christ, se sont-ils répandus à profusion sur la multitude. C'est cette lecture du péché originel que nous demande de faire le catéchisme de l'Église catholique. Et Pascal montre parfaitement que ce mystère du péché originel, qui dans un premier temps nous paraît profondément injuste, jette en définitive une lumière très vive sur la fragilité foncière de notre nature humaine et nous réconcilie en quelque sorte avec elle. Si bien que cette doctrine du péché originel est en définitive un aspect de la bonne nouvelle apportée dans le Nouveau Testament. Voici ce que dit Pascal. Il n'y a rien qui choque plus notre raison que le péché du premier homme. Et rendu coupable, ceux qui étant si éloignés de cette source semblent incapables d'y participer. Cet écoulement ne nous paraît pas seulement impossible, il nous semble même très injuste. Certainement, rien ne nous heurte plus rudement que cette doctrine. Et cependant, sans ce mystère, le plus incompréhensible de tous, nous sommes incompréhensibles à nous-mêmes. Le nœud de notre condition prend ses replis et ses tours dans cet abîme, de sorte que l'homme est plus inconcevable sans ce mystère, que ce mystère n'est inconcevable à l'homme. »